20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Depuis bientôt 30 ans, les archéologues se sont lancés dans la redécouverte de l'âge du fer afin de dévoiler une riche société remplie de grands sanctuaires, de tombes princières et sépultures guerrières, voire de trésors monétaires. Nous en avons souvent parlé, Gaulois et Celtes sont à la mode. Ces recherches ont-elles été entreprises au détriment d'autres périodes, de l'Antiquité par exemple, qui, face au bouillonnant monde gaulois, paraît bien norme, tant Rome, c'est la norme. Que nous a donc apporté l'Empire romain, si ce n'est la paix des campagnes, cette Pax Romana tant vantée par l'État français de Vichy? D'ailleurs, qu'est-ce que serait ce monde gallo-romain, ni romain et plus du tout gaulois? Pour en parler, Mathieu Poux. Bonsoir.
Bonsoir.
Archéologue, professeur d'archéologie à l'Université de Lyon 2, vous êtes un spécialiste des processus de romanisation en Gaule. Vous êtes par ailleurs le fouilleur de quelques grands sites, dont le fameux oppidum de Coran, au cœur du territoire arverne. Mathieu Poux, puisque je vous sais franco-suisse, évoquons les gallo-romains. Ce mot hybride est par essence horrible, qui s'avère être aujourd'hui une curiosité de l'historiographie française.
Alors effectivement, c'est un mot qui n'est pas très heureux, mais vous faites bien de préciser un petit peu mon parcours, puisqu'il se trouve qu'en tant que citoyen helvète, j'ai eu l'occasion de faire une grande partie de mes études en Suisse, et j'y ai enseigné dans l'université de Lausanne, où j'ai soutenu mon doctorat, et dans une chaire d'archéologie qui s'intitulait Archéologie gallo-romaine. Donc les Français ne sont pas seuls à parler d'archéologie gallo-romaine, leurs voisins francophones également. C'est le premier point. Et il existe d'autres pays en Europe où l'on ne parle pas évidemment de gallo-romain, mais où on parle de brito-romain, de romain germanique, de daco-romain. Donc ce n'est pas du tout une spécificité française. Dans d'autres pays, on valorise l'hybridation culturelle qui caractérise tous les processus de conquête, de colonisation et d'acculturation. Et à ce titre, la France ne fait pas exception.
Ce mot apparaît à peu près au 19e.
Oui, alors il commence à apparaître dans la littérature à ce moment-là. C'est surtout le moment où on commence à exploiter ce terme à des fins idéologiques et politiques. Et il y a toute une historiographie du terme qui montre bien que les Gaulois, les Romains, les Gallo-Romains, tour à tour, à différents moments de l'histoire, ont été exploités justement à des fins idéologiques. Et ce terme de Gallo-Romain a eu des significations qui sont tout à fait différentes selon les époques, ce n'est absolument pas monolithique. Ils ont été mis au service d'idéologies tout à fait diverses, opposées. Par exemple, la colonisation française, la période de Vichy, la période napoléonienne. Et c'est une histoire très complexe qu'il faut décortiquer, je dirais, étape par étape pour bien comprendre comment s'est forgé le terme actuel de gallo-romain.
La civilisation gallo-romaine est le symptôme d'un tropisme nationaliste et identitaire dans le paysage académique?
Pas véritablement. C'est-à-dire, c'est une discipline qui fait valoir à la fois l'héritage, ce que pourrait qualifier d'héritage gaulois, celtique, peu importe comment on l'appelle, et puis cette période très particulière qui est celle de la conquête romaine, qui va durer plusieurs décennies, plusieurs siècles, même suivant les régions, et qui effectivement aboutit, pour certains chercheurs dont je suis, à une forme de culture hybride, mixte, qui n'est pas monolithique, mais c'est le cas de toutes les cultures. Et tout dépend comment chaque pays, chaque tradition académique s'empare de son passé. Et je dirais que la France a un passé complexe, elle a un rapport à son histoire qui est tout à fait particulier. Et c'est vrai que le terme de gallo-romain a toujours été au cœur de ce rapport à l'histoire.
Alors, j'ai bien sûr cherché un coupable, je l'ai trouvé. Arcisse de Caumont qui, dans les années 1870, on est peut-être même dans les années 1871, écrit en deux mots « Les Romains civilisèrent les Gaulois ». Tout est dit.
Tout est dit. Et c'est ce qu'on a écrit notamment dans les manuels scolaires. C'est une idée qu'on retrouve notamment dans le fameux cours élémentaire moyen, ce qu'on appelait communément le Petit Lavis. Cette idée qu'effectivement, les Romains ont traité les Gaulois de la même manière que les Français et tous les peuples colonialistes traitaient les cultures indigènes, africaines, asiatiques au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Et on a des parallèles tout à fait éloquents qui sont établis dans ces manuels scolaires de la Troisième République entre justement les sauvages d'Afrique, les sauvages d'Asie et nos ancêtres, les sauvages gaulois, avec des phrases tout à fait choquantes aujourd'hui qui expliquent que les Gaulois étaient naturellement amenés à être civilisés par les Romains parce que tout simplement, ils appartenaient à une culture inférieure. Ils savaient faire moins de choses, ils étaient moins intelligents, ils maîtrisaient moins les techniques de base de la civilisation. Et à ce titre, eh bien, la colonisation était tout à fait légitime, justifiée. Et quand on parle d'apport positif de la colonisation, ce sont des choses qu'on trouve beaucoup dans les manuels scolaires à propos des Romains et des Gaulois.
Oui, mais cette phrase « les Romains civilisèrent les Gaulois », elle reste encore présente dans l'imaginaire des Français. On n'arrive pas à s'en débarrasser.
Bien entendu, aujourd'hui, la question est surtout de savoir quels enjeux on met dans le débat. Je dirais que le débat de savoir si la Gaule a été colonisée, civilisée par les Romains, c'est quelque chose qui intéresse surtout les spécialistes, qui intéresse surtout les chercheurs, universitaires, etc. Mais ce sont des questions de visions opposées. Alors, l'une des visions qui valorise justement l'apport de la romanisation des Romains, et puis l'autre qui, au contraire, valorise l'héritage indigène. Ce sont des questions qui intéressent les spécialistes, qui n'intéressent pas forcément le grand public, mais qui font écho à des sensibilités idéologiques, politiques, religieuses, même parfois. Et c'est vrai qu'il nous arrive fréquemment, dans le cadre de conférences ou du contact avec le public, de visites, d'être interpellé sur cette question-là. Qu'est-ce qui reste de cette part de gauloiserie ou de celtitude en nous, en France? Et c'est évidemment pas poser la question en de bons termes. Aujourd'hui, nous conversons en français, en bas latin, en réalité. Nous ne conversons pas en breton ou en gallois. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont claires. Nous appartenons à une culture latine et la conquête romaine, évidemment, a très profondément transformé les paysages, les villes, les modes de vie, la culture, la langue, la religion, etc. La question ne se pose pas du tout en ces termes-là. Mais la question est plutôt de savoir, à partir de quand débute ce processus, combien de temps il a duré, et surtout jusqu'à quand il a duré. Et aujourd'hui, l'enjeu, pour les historiens comme pour les archéologues, est de répondre à ces questions-là.
Pourquoi l'Antiquité paraît-elle si peu à la mode ?
L'Antiquité est à la mode, de se demander aux Italiens. Les Italiens valorisent évidemment leur passé romain, mais pas uniquement. Puisqu'on parle d'hybridation, l'archéologie romaine en Italie a totalement intégré l'héritage étrusque. On parle parfois d'Italo-romain, d'étrusco-romain, qu'il s'agisse par exemple du plan des villes, la manière de fonder les villes, du plan des maisons, de la religion, toute la pratique religieuse romaine. Cet héritage étrusque est tout à fait assumé et ne pose absolument pas problème. La question est de savoir pourquoi il pose problème en France. Le terme de romanité, par exemple, est un terme qui pose problème, puisqu'il a été utilisé par le fascisme mussolinien. Mais cette notion même de romanité est quelque chose qui a été théorisé dans l'Antiquité. Qu'est-ce qu'un bon citoyen romain? Qu'est-ce que la culture romaine? Qu'est-ce qui la différencie d'autres peuples, des Grecs? Et en fait, tout le problème, c'est un jugement de valeur.
Qu'en est-il quand même dans la recherche en France? La protohistoire, l'âge du fer, les Gaulois, les Celtes ont été l'objet de recherches absolument très intenses, peut-être aujourd'hui même survalorisées, peut-être tout ça au détriment de l'Antiquité.
Alors, en réalité, les études classiques qui s'intéressent aux Grecs ou aux Romains ont quand même quelques siècles d'avance sur la proto-histoire française. C'est une discipline jeune, même si elle est née dans le sillage des premières fouilles de Napoléon III, financées par Napoléon III et initiées par Napoléon III à Lésia, Gergovie, etc. Ça faisait déjà quand même quelques décennies, voire même quelques siècles qu'on s'intéressait aux temples grecs, aux villes romaines, etc. Et en réalité, cette recherche proto-historique française est la moins d'une cinquantaine d'années. Donc on a un réel retard. Il est tout à fait logique que les découvertes s'enchaînent, elles sont très spectaculaires. Elle bouleverse ses connaissances. Il est tout à fait normal que les médias, le public, s'intéressent à ces découvertes nouvelles. On a souvent le sentiment qu'on sait tout sur la Grèce et Rome. Rien n'est plus faux. Il y a des centaines de chercheurs qui travaillent en France et ailleurs en Europe qui apportent des choses considérables. Mais simplement, ces apports sont noyés dans un océan de connaissances qui est beaucoup plus ancien. Et aujourd'hui, il est vrai que quand on fouille des villes gauloises, par exemple, on découvre un nouveau monde qui était complètement inconnu et insoupçonné.
Puis Rome, c'est la norme quand même.
Ce n'est pas tout à fait faux. Rome, c'est la norme. L'Empire romain est la norme. Il y a une normalisation des pratiques religieuses, notamment politiques, des modes de vie dans l'Empire romain qu'on ne trouve absolument pas quand on parle de culture proto-historique, des Gaulois par exemple. La Gaule n'a jamais existé en tant que nation, n'a jamais existé en tant qu'empire. C'est une mosaïque d'une soixantaine de peuples aux intérêts divergents. Certains sont alliés à Rome, d'autres non. Des modes de vie complètement différents, des pratiques politiques différentes. Donc il n'y a pas cette unité. Donc il est vrai que Rome a imposé énorme au reste du monde de l'époque, que les Gaulois ou les Celtes n'ont jamais imposé.
Mathieu Pou, les Gaulois sont-ils solubles dans la romanité? Voilà un sujet sur lequel travaillent depuis des générations des chercheurs antiquistes.
Des chercheurs antiquisants et proto-historiens, bien entendu. Et la réponse à cette question, elle est multiple. Bien entendu, les Gaulois sont solubles dans la romanité puisqu'ils sont devenus un peuple romain, comme les autres. mais c'est un processus qui a pris du temps, qui a touché certains domaines et pas d'autres, certaines fractions de la population et pas d'autres, l'élite par exemple, par opposition aux classes populaires, les villes, les campagnes, et tout l'intérêt aujourd'hui est d'analyser ces phénomènes avec nuance et diversité, dans toute sa diversité.
Cette dissolution, on la voit surtout dans les structures sociales et éventuellement dans la culture matérielle, donc dans les objets.
Le premier moteur de la romanisation, de cette conquête romaine, ce sont les élites. Les élites s'entendent par-delà les populations, comme toujours, et ces élites sont devenues romaines en l'espace de quelques années. Beaucoup sont devenues romaines avant la conquête romaine. Il est tout à fait étonnant de voir des nobles de la région de Sens, par exemple, ou de Lyon, ou d'Autun, porter des noms romains, porter le nom de Jules César dès les années 50 avant notre ère. Donc ils sont totalement romains. Certains peuples gaulois ont tellement adhéré à la romanité de l'époque qu'ils vivent pratiquement à la romaine.
Et puis d'autres. Les Éduins, les Rèmes, j'en parlais récemment.
Ou les Arvernes, bien entendu, qui sont expressément décrits comme des alliés du peuple romain, de grands amis du peuple romain dans les sources écrites. Et l'archéologie confirme tout cela. Mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. D'autres peuples, eux, sont tout à fait réfractaires à toute intervention extérieure, romaine ou autre, à commencer par celle de leurs voisins. Et eux vont faire de la résistance. C'est ce que César nous dit dès le premier livre de la guerre des Gaules. Les fameux Belges, qui n'étaient pas plus courageux que les autres, mais qui, en tout cas, étaient beaucoup plus rétifs à la civilisation romaine, et notamment à ses marchands, de vin.
Qu'est-ce que vous entendez par romanité ? Moi, j'y vois quand même la fameuse romanitas, qui est pour moi une notion totalement mussolinienne et fasciste. Hein.
Alors, pourquoi le pouvoir fasciste a exploité cette notion de romanité ? Un petit peu comme tous les, on l'a dit, hein, comme tous les peuples, il s'agit de valoriser le passé à des fins idéologiques, politiques. Mais en l'occurrence, ce qui est valorisé, c'est ce formidable pouvoir uniformisateur de l'Empire romain qui passe notamment par la religion, le culte de l'empereur, le culte de Rome et de l'empereur, qui va non seulement bouleverser complètement la manière de pratiquer la religion, mais aussi et surtout le paysage urbanistique, les temples, les grandes places publiques qui sont entièrement consacrées à ce nouveau culte qui va être établi à peu près partout dans l'Empire romain à l'époque, aussi bien en Orient qu'en Occident, dans toutes les villes de Gaule notamment. Et c'est un formidable facteur, évidemment, d'acculturation, d'assimilation de ces populations. Ça passe d'abord par l'élite, on l'a dit. Les populations sont conviées à ces grandes cérémonies, elles sont conviées à ces nouveaux cultes, et c'est un processus qui va se dérouler relativement rapidement. En l'espace de quelques décennies, la Gaule va complètement basculer de ce point de vue-là. Mais là encore, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Il s'agit aussi de regarder ce qu'il en est des modes de vie, de la langue, des pratiques dans les campagnes, notamment. Puisqu'il ne faut pas oublier un facteur très très important, c'est que l'écrasante majorité des populations de l'époque ne vit pas en ville, mais dans les campagnes. Et l'archéologie aujourd'hui, notamment l'archéologie préventive, telle qu'elle est menée par l'INRAP ou d'autres chercheurs, elle se déroule principalement dans les campagnes. Les grands travaux d'aménagement concernent les périphéries des centres-villes, et c'est une réalité tout à fait différente à laquelle nous confrontent ces fouilles.
La romanité, on la revoit ressurgir aujourd'hui très fort. On vient de créer un musée de la romanité. Qu'est-ce que ça vous fait ?
Il est tout à fait symptomatique de voir que dans le midi de la France, où la romanisation a été beaucoup plus précoce qu'ailleurs, 70 ans plus tôt, eh bien, on valorise ce passé romain. Dans le nord de la France, qu'on appelle les Trois Gaules, la Gaule Aquitaine, la Gaule Lyonnaise et la Gaule Belgique, au contraire, la tradition historique et archéologique valorise plutôt ce passé gaulois, et on s'échine à rechercher dans les monuments, dans la construction, dans les modes de vie, justement, les traces de cet héritage, qui existe bel et bien. Il faut prendre les choses une par une, et regarder justement quelle est la part d'apport de l'harmonisation, incontestable, indéniable, très important, et puis la part de ce qui est conservé, qui est tout aussi réel.
Côté histoire, notre vision de la colonisation romaine en Gaule serait encore influencée par ce que disent les textes antiques ?
Oui, alors on le sait, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. En l'occurrence, le vainqueur, c'est Jules César, qui a été probablement le plus grand exterminateur de Gaulois dans l'histoire de la Gaule. Il en a tué des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Mais c'est paradoxalement aussi celui qui nous dépeint cette société gauloise, cette civilisation gauloise, de la manière la plus objective et la plus bienveillante par rapport à ses contemporains, aux auteurs qui l'ont précédé, qui vont lui succéder. C'est tout à fait étonnant. On a un excursus ethnographique dans la guerre des Gaules, le livre 6, qui nous dépeint ces Gaulois pratiquement comme des Romains. quand César, par exemple, nous parle des dieux gaulois, il ne prend même pas la peine de donner leurs noms gaulois. Il donne des noms romains. Il parle de Mercure, de Mars, de Jupiter. Il précise simplement que le Panthéon n'est pas ordonné de la même manière, que l'ordre n'est pas le même. Mais ça montre à quel point cette culture est proche. Il ne faut pas oublier que les Celtes, les Gaulois, parlent pratiquement la même langue que les Romains, l'italien, ce qu'on appelle la branche italo-celtique des langues indo-européennes. Le Celte, donc, et le latin sont des langues tout à fait apparentées. Les Gaulois sont aussi le premier peuple qu'on rencontre au-delà de l'Italie. Ce sont des voisins proches. On ne peut pratiquement plus parler de cousins, mais de frères. Et de ce point de vue-là, l'assimilation va se faire très anciennement, très tôt, et tout à fait naturellement.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Après avoir vu les textes, Mathieu Pou, aujourd'hui, quelle est la place de l'archéologie dans cette approche ?
Elle est tout à fait primordiale. Pour une raison bien simple, c'est que les textes qui concernent la Gaule romaine sont très rares. On n'a pas malheureusement d'historiens gallo-romains, d'écrivains gallo-romains qui nous auraient légué un corpus important qui nous permette de mieux comprendre cette société, son évolution, etc. Et de ce point de vue, pour moi, la Gaule romaine appartient encore à la proto-histoire, au sens où l'entendent les Allemands, puisque... On le sait, la proto-histoire, ce sont des peuples qui n'écrivent pas leur histoire, mais dont l'histoire est documentée de l'extérieur. Il faut dire que toute l'histoire de la Gaule est documentée par des auteurs extérieurs, grecs, romains, qui pour la plupart n'ont pas mis le pied en Gaule, et il faut attendre le Moyen-Âge pour que la France commence à écrire son histoire. Et de ce point de vue-là, il n'y a que l'archéologie qui peut pallier les lacunes, qui peut combler ces vides, et ce roman qui s'écrit maintenant depuis, non pas un roman national, mais un roman archéologique qui s'écrit depuis des décennies, nous livre des chapitres tout à fait inattendus et tout à fait surprenants, qui touchent tous les domaines, les infrastructures, les villes, les campagnes, la religion, les modes de vie, les pratiques alimentaires, etc. Et nombreux sont les sujets où on s'interroge en permanence de savoir, voilà, quelle est la part de ce qu'il y avait avant, de ce qui subsiste après, et de ce qui subsistera au final.
Justement, pour percevoir ce caractère soluble de la société gauloise, il nous faut probablement remonter bien avant la conquête. Nous voici devant ce que l'on pourrait appeler une acculturation précoce à la carte, celle bien sûr des élites, dès le 5e siècle avant notre ère. Ce n'est plus Rome, mais la Méditerranée.
Tout à fait.
Avec quelques très belles trouvailles, le vase de Vix, la tombe de Lavaux.
On pourrait aussi citer des découvertes qui ont été faites en Allemagne, comme celle de Ohrdorf ou de la Lüneburg, par exemple, qui montrent bien que le débat dépasse très largement les frontières nationales. Ce n'est pas absolument pas une question qui n'intéresse que les Français, mais qui intéresse également nos collègues allemands, ou suisses, ou belges, et bien au-delà. Ce processus d'acculturation, il est très précoce, mais il concerne une toute petite fraction de la société. Ce qui fait que ce sera une expérience sans lendemain. C'est-à-dire ces premiers contacts noués entre les élites, on appelait élite princière autrefois celtique des 6e et 5e siècles, et leurs voisins grecs et étrusques, ce sera un feu de paille. Ça ne va pas durer. Ça durera quelques décennies, un siècle tout au plus, et ensuite ces contacts vont cesser. Il faut attendre le 2e et le 1er siècle avant notre ère pour que s'intensifient à nouveau les relations commerciales, culturelles, entre nos Gaulois, qui occupent à peu près le territoire français actuel et ses marges, et leurs voisins italiens, cette fois-ci leurs voisins romains.
Le 1er siècle avant notre ère, nous voici avec des villes, ce qu'on appelle des oppidas dans le jargon archéologique, un monnayage, la circulation du vin, une sorte d'espace gallo-romain avant l'heure.
Ça, c'est une idée que je prône depuis un certain temps, effectivement. Quand on parle de Gaule romaine, on a l'habitude de faire démarrer le processus à moins 52 avant notre ère, la défaite d'Alésia. Et dans les manuels scolaires, on présentait les choses d'une manière un petit peu caricatural, des Gaulois qui sont très proches des hommes préhistoriques, habillés en peau de bête, qui vivent dans la forêt, dans des huttes mal construites, avec la fumée qui pique les yeux, des enfants qui ne vont pas à l'école, etc. Et qui se réveillent un beau matin, printemps 52 avant notre ère, dans des palais de marbre, dans des grandes villes, avec des voies, des fontaines remplies d'eau, etc., des aqueducs. Et donc c'est l'idée que la conquête a induit une rupture brutale, extrêmement rapide, et rien n'est plus faux. Quand on étudie aujourd'hui des sites de cette période, à l'échelle d'une région, à l'échelle du territoire, on se rend compte que le processus a été extrêmement long, et il est vrai que dès le 2e siècle avant notre ère, pour un spécialiste de l'Antiquité romaine ou un proto-historien, je suis un petit peu les deux, eh bien, ce n'est pas du tout exotique. On est plongé dans un monde au 2e siècle avant notre ère, dans ce monde des oppidas, dans les grandes villes, qui ne représentent pas toute la société gauloise, qui est finalement assez proche de ce qu'on peut trouver en Italie à la même époque. Il faut bien se rendre compte que les villes en Italie au 2e siècle avant notre ère n'ont rien à voir avec ce qu'elles seront 4 siècles plus tard, à l'époque impériale. Et la grande erreur de beaucoup d'historiens et d'archéologues, c'est de procéder par anachronisme, c'est de comparer des choses qui n'appartiennent pas à la même période, et on ne peut qu'arriver à des erreurs. Comparer nos villes gauloises en disant, voilà, ces centres gaulois ne ressemblent quand même pas à un beau forum romain. Mais le forum romain tel qu'on le connaît, il est inventé sous Auguste, un siècle plus tard. Et on n'en trouve pas en Italie non plus à la même période. Donc c'est une des causes du malentendu. des raisons de ce malentendu qui oppose souvent antiquisants et proto-historiens, c'est qu'on ne parle souvent pas la même chose et on mélange des choses qui n'appartiennent pas à la même période.
Parce que vous, archéologue, vous pensez au bois et non pas à la pierre.
Prenons l'exemple du bois, effectivement. On oppose souvent un monde gaulois du bois, de la terre, qui s'opposerait à un monde romain de la construction en mortier de chaux, le Puscamenticium, de la pierre de taille. Et rien n'est plus faux quand on fouille une ville italienne du IIe siècle avant notre ère. Alors peut-être pas la grande Rome, la future Rome des Césars, mais une ville secondaire en Italie. On se rend compte que la plupart des constructions sont réalisées en matériaux périssables. Alors, il y a moins de bois en Italie qu'on en trouvera en Gaule plus tard. Mais il faut bien savoir qu'un grand nombre de constructions qui nous apparaissent comme tout à fait caractéristiques de leur humanité, comme les théâtres, en pierre, par exemple, les théâtres maçonnés n'existent pas à Rome à cette époque-là. Il faut attendre Pompée, les années 50 avant notre ère, pour les voir apparaître. Les grands fora impériaux, ces grands forums qu'on trouve au cœur des villes d'Italie et de tout l'Empire romain, ils apparaissent très tard, ils apparaissent autour du changement d'ère et ils vont apparaître en Gaule pratiquement en même temps qu'ailleurs.
Cette acculturation précoce se perçoit aussi dans l'adoption de techniques de construction gréco-latines, pourrait-on dire. Je pense à Lyon ou à d'autres gisements.
Ah, tout à fait. On trouve à Lyon, mais aussi sur d'autres sites, notamment à Coran, le site que vous avez cité tout à l'heure, des constructions qui utilisent déjà des techniques tout à fait romaines ou méditerranéennes, notamment des toits de tuiles, des tuiles en terre cuite, des enduits peints de couleur, des sols qui sont fondés sur des lits de pierre, des hérissons de pierre, des choses, des techniques qui n'apparaissent pas dans les millénaires qui précèdent et qui apparaissent à ce moment-là et qui évidemment sont adoptées au contact des populations méditerranéennes. C'est-à-dire que les Gaulois n'ont pas inventé, ils sont en contact étroit avec les Grecs de Marseille, avec cette toute jeune province de transalpine qui est créée dans les années 110 avant notre ère par Rome. Et à partir de là, on se rend compte qu'effectivement, dans les villes gauloises, que ce soit du point de vue des fortifications, la manière de construire les maisons, d'agencer les centres-villes, d'organiser les villes, eh bien, il y a des influences tout à fait majeures.
Est-ce qu'on peut penser à des Romains en Gaule ou des Gaulois déjà romanisés ?
Il ne s'agit pas seulement d'y penser, puisque leur présence est explicitement attestée par César. Toute la question est de savoir s'ils étaient là avant la guerre ou s'ils sont arrivés dans le sillage des légions. Mais en réalité, il ne fait aucun doute que tous ces échanges impliquaient la présence réelle, physique, de marchands, peut-être de soldats, d'hommes politiques romains en Gaule, de la même manière que les Gaulois voyageaient en Italie. On a la trace chez Cicéron, notamment, de druides gaulois qui discutent avec lui dans son salon de philosophie, de religion, de divination. Et c'est une réalité à la fois historique et qui est tout à fait corroboré par les fouilles, puisqu'on trouve dans les fouilles des objets qui n'ont pas voyagé tout seuls, certainement. Il y a des objets qui ne pouvaient pas être utilisés en dehors de leur contexte d'origine et qui ont certainement voyagé avec soit leur créateur ou ceux qui les utilisaient. Je pense par exemple aux instruments de chirurgie qui ne peuvent être utilisés que par des chirurgiens.
Figure aussi, Mathieu Pou, en Gaule indépendante, des monuments à l'image des théâtres et hémicycles antiques. L'un est par exemple à Coran.
Alors c'est l'une des découvertes effectivement qui amène à vraiment repenser le rapport entre ces Gaulois proto-historiques et les Grecs et les Romains, puisque cette découverte qui était tout à fait inattendue, en réalité on n'osait même pas l'imaginer, montre que ces théâtres dits gallo-romains, qu'on trouve à peu près partout en France, c'est un bon exemple, parce que on connaît des théâtres en pierre, maçonnés, construits à la romaine, construits au 2e, 3e siècle de notre ère, parfois au 1er siècle pour les plus anciens, qui présentent un plan qui est totalement différent de ce qu'on peut retrouver ailleurs dans l'Empire romain. Et puis leur nombre est tout à fait inhabituel. Habituellement, les théâtres sont construits dans des centres-villes. Là, on les trouve plutôt dans des petites agglomérations secondaires, non pas à la campagne, mais rattachées des sanctuaires. Et leur plan est tout à fait atypique. On s'est longtemps interrogé de demander d'où cela venait. Et la découverte de Coran montre que, en réalité, ces théâtres existaient déjà avant la conquête. Ils ne servaient pas de théâtre, ce sont des hémicycles d'assemblée, pour les assemblées politiques, très probablement. On n'a pas les textes pour le prouver, mais c'est une hypothèse plausible. Et en fait, ces théâtres ont un plan très particulier, inspiré des hémicycles d'assemblée grecs. Et donc, les Gaulois les ont construits déjà pratiquement un siècle avant la conquête. Et c'est tout naturellement, au moment de la conquête romaine, qu'ils vont rhabiller ces anciens édifices avec des techniques de construction nouvelles et créer un type tout à fait particulier, tout à fait inédit, tout à fait original dans le paysage de l'Empire romain. Et il n'est pas du tout abusif de qualifier ces théâtres à moitié gaulois et à moitié romains de gallo-romains.
Qu'en est-il après la conquête ? L'impact matériel de cette conquête a-t-elle été minimisé ou exagéré par les chercheurs ?
Alors là encore, on a deux écoles de point de vue. Il y a ceux qui ont prôné plutôt la rupture, c'est-à-dire une conquête romaine qui fait table rase du passé gaulois, des modes de vie, des villes, etc. Et puis ceux qui, au contraire, ont sans doute exagéré la part de cet héritage gaulois. Il ne s'agit pas, pour des raisons idéologiques ou affectives, de valoriser l'une ou l'autre. Là n'est pas la question. Mais on se rend compte que, encore entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, on a des formes d'architecture originales, pas uniquement au niveau des théâtres, mais pour ce qui est par exemple des temples. On connaît peut-être une cinquantaine de temples de type gréco-romain en Gaule, comme dans toutes les provinces de l'Empire, mais il en existe près d'un millier à côté de cela, qui présentent un plan tout à fait original, qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on trouve uniquement dans les provinces gauloises et germaniques, et dont les prototypes aujourd'hui sont bien connus dans les fouilles. On les trouve sur les sanctuaires gaulois dès le 3e, 4e siècle avant notre ère. Et donc on a bien un type d'édifice gaulois qui a pu être influencé par des formes d'architecture grecque ou romaine, peu importe, mais qui va perdurer après la conquête, qui va être assimilé par ces populations gallo-romaines des 1er et 2e siècles et qui va disparaître petit à petit. Et donc c'est une assimilation qui va prendre non pas quelques années, non pas quelques décennies, mais plusieurs siècles. Et quand on prend l'alimentation par exemple, quand on prend l'onomastique, l'étude des noms, on se rend compte qu'il y a énormément de perduration. Alors, si on prend les élites, évidemment, ça va très vite. Les nouveaux centres-villes construits par l'occupant, par Rome, changent complètement le paysage urbanistique de la Gaule. Mais dès lors qu'on s'éloigne de ces centres-villes, qu'on part dans les agglomérations secondaires, on connaît par exemple de véritables oppidas des villes du 1er siècle de notre ère, je pense à Vertot ou à Alésia, qui ressemblent encore à des oppidas gaulois. Elles comportent encore des remparts construits à la gauloise, leur plan n'a rien à voir avec celui d'une ville romaine, et les maisons sont encore construites selon les méthodes traditionnelles. On a parfois quelques fondations maçonnées, mais disons rien ne change, le plan reste le même. Et donc cette perduration à la fois des formes d'urbanisme, des modes de vie, etc., elle est perceptible à peu près partout pour qui s'y intéresse.
La langue est très intéressante. Quand on voit par exemple les extraordinaires tablettes de malédiction du Larzac, qui sont en plomb et qui sont écrits en langue gauloise et qui sont assez tardives.
Alors là, c'est intéressant parce que ces malédictions de plomb qu'on appelle des defictiones, elles sont typiquement romaines, méditerranéennes, même orientales, hein, pour une part. En revanche, effectivement, on y trouve des textes gaulois. Donc là, c'est un très bel exemple de syncrétisme. C'est-à-dire que c'est une procédure de malédiction qui est totalement exotique, totalement étrangère, mais on écrit quand même en gaulois. En revanche, toute l'épigraphie des trois Gaules, eh bien, elle est rédigée en latin, avec des formulaires latins. Toute la population n'écrivait pas, évidemment, ne maîtrisait pas forcément l'écriture, mais quand on écrit en latin. Et ce qui est certain, c'est que si cette assimilation-là n'avait pas eu lieu, on ne parlerait pas français aujourd'hui.
Les premières cités romaines semblent s'implanter sur d'anciennes cités celtiques. Qu'en est-il, par exemple, de Lyon, avec de nouvelles recherches?
Là, il y a différents cas de figure. Il y a des villes qu'on refonde à l'emplacement d'anciennes cités gauloises. Parfois, on les fonde un petit peu à l'écart, quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, et parfois partout ailleurs, c'est-à-dire dans la plaine, à plusieurs dizaines de kilomètres du noyau urbain initial. Pour ce qui est de Lyon, c'est très complexe, et ça montre bien que la question évolue, puisque dans les années 1980, Christian Gounineau, grand spécialiste, meilleur spécialiste de la Gaule romaine, incontournable, écrivait « Il n'y a rien sous la colonie romaine de Lyon ». Il n'y avait rien à l'époque, sauf que les fouilles menées depuis par Lafan, puis l'INRAP, le service archéologique de la ville de Lyon et d'autres opérateurs ont montré qu'il y a beaucoup de choses. On avait organisé une exposition en 2002 au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière qui montrait qu'il y a un passé très important à Lyon, et notamment un passé gaulois. Un rempart qui vient d'être découvert en 2015 seulement, il y a seulement 4 ans, un rempart construit à la gauloise. Mais même pour ce rempart, on hésite encore à se dire, est-ce qu'il est véritablement gaulois, antérieur à la conquête, ou est-ce que ce n'est pas un rempart romain construit à la manière gauloise? Et ce n'est pas toujours facile de trancher.
Les élites anciennes ou nouvelles sont devenues rapidement, bien sûr, romaines, mais qu'en est-il des populations plus modestes, par exemple celles des campagnes qui étaient totalement majoritaires?
Alors c'est précisément là, dans les campagnes, qu'on cerne le mieux la lenteur du rythme d'acculturation, de romanisation, puisque évidemment ces populations étaient par nature, par définition, plus éloignées non seulement des centres-villes, mais de tout ce qui faisait le sel de cette romanité introduite par l'occupant. Ces Gaulois n'étaient pas citoyens romains, ils ont été faits citoyens romains très tard, au 3e siècle, à la différence des élites qui, elles, ont été naturalisées très très tôt. On reste dans un système de domination par une caste élitaire qui domine le reste de la population, et de ce point de vue-là, il est clair que les campagnes ont fait beaucoup plus de résistance, étaient beaucoup plus attachées à ces modes de vie traditionnels, par manque de moyens déjà tout simplement. On n'a pas forcément les moyens de bouleverser complètement les centres-villes, de reconstruire sa maison, et c'est un processus qui a pris plusieurs siècles, qui s'achève véritablement au 2e et 3e siècle de notre ère.
Mathieu Pou, une dernière question. La Gaule a-t-elle été le laboratoire de Rome, le terrain d'expérimentation de l'Empire?
Alors tout à fait, quand on parle de la Gaule, il ne faut pas oublier qu'il y en a eu plusieurs. J'ai parlé de 60 peuples tout à l'heure, mais il y a les trois Gaules. Il y a également la Gaule transalpine, devenue narbonnaise, qu'on met toujours un petit peu à part. Et puis il y a une cinquième Gaule qu'on oublie toujours, qui est la Gaule cisalpine. Et en termes d'ouverture, c'est quelque chose, je voudrais mettre le doigt là-dessus. S'il y a un endroit où on va pouvoir répondre à cette question de savoir ce qu'est la culture celto-romaine ou gallo-romaine, c'est bien en Italie du Nord, puisque c'est une région qui a été colonisée beaucoup plus tôt par Rome, un siècle, voire deux siècles plus tôt que le reste de la Gaule qu'on trouve au nord des Alpes. Rhône-Alpes. Et c'est un laboratoire précoce. La Gaule du Sud, la Gaule transalpine a été un laboratoire. Les trois Gaules ont été un laboratoire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un certain nombre d'innovations qui apparaissent à Rome au moment du basculement de la République et de l'Empire vont être mises en œuvre immédiatement en Gaule. On a parlé des villes, du forum, du théâtre, etc. Et c'est l'étude de ce processus sur le long terme qui est intéressant. Cette période gallo-romaine qui va du 2e siècle avant notre ère au 2e siècle de notre ère.
Mathieu Pou, merci. Carbone 14 a été réalisé par Anna Smuk, à la technique Alain Joubert, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.